George Sand, Légende rustique, avant-propos. Il faudrait trouver un nom à ce poème sans nom de la fabulosité ou merveillosité universelle dont les origines remontent à l'apparition de l'homme sur la terre et dont les versions multipliées à l'infini sont l'expression de l'imagination poétique de tous les temps et de tous les peuples. Le chapitre des légendes rustiques sur les esprits et les visions de la nuit serait à lui seul un ouvrage immense. En quel coin de la terre pourrait-on se réfugier pour trouver l'imagination populaire qui n'est jamais qu'une forme effacée ou altérée de quelques souvenirs collectifs à l'abri de ces noires apparitions d'esprits malfaisants qui chasse devant eux les larves éplorées d'innombrables victimes. Là où règne la paix, la guerre, la peste ou le désespoir, ont passé, terrible à une époque quelconque de l'histoire des hommes. Le blé qui pousse à le pied dans la chair humaine, dont la poussière a engraissé nos sillons. Tout est ruine, sang et débris sous nos pas, et le monde fantastique, qui enflamme ou stupéfie la cervelle du paysan, est une histoire inédite des temps passés. Quand on veut remonter à la cause première des formes de la fiction, on la trouve dans quelques récits tronqués et défigurés, où rarement on peut découvrir un fait avéré et consacré par l'histoire officielle. Le paysan est donc, si l'on peut ainsi dire, le seul historien qui nous reste des temps anciens historique, honneur et profit intellectuel à qui se consacrerait à la recherche de ces traditions merveilleuses de chaque hameau, qui, rassemblées ou groupées, comparées entre elles et minutieusement disséquées, jetteraient peut-être de grandes lueurs sur la nuit profonde des âges primitifs. Mais ceci serait l'ouvrage et le voyage de toute une vie, rien que pour explorer la France. Le paysan se souvient encore des récits de son aïeul, mais le faire parler devient chaque jour plus difficile. Il sait que celui qui l'interroge ne croit plus et commence à sentir une sorte de fierté, à coup sûr estimable, qui se refuse à servir de jouet à la curiosité. D'ailleurs, on ne saurait trop avertir les faiseurs de recherche que les versions d'une même légende sont innombrables et que chaque clocher, chaque famille, chaque chaumière a la sienne. C'est le propre de la littérature orale que cette diversité. La poésie rustique, comme la musique rustique, compte autant d'arrangeurs que d'individus. J'aime trop le merveilleux pour être autre chose qu'un ignorant de profession. D'ailleurs, je ne dois pas oublier que j'écris le texte d'un album consacré à un choix de légendes recueillies sur place, et je m'efforcerai de rassembler, parmi mes souvenirs de jeune âge, quelques-uns des récits qui complètent la définition de certains types fantastiques communs à toute la France. C'est dans un coin du Berry où j'ai passé ma vie que je serais forcé de localiser mes légendes, puisque c'est là, et non ailleurs, que je les ai trouvées. Elles n'ont pas la grande poésie des champs bretons, où le génie et la foi de la vieille Gaule ont laissé des empreintes plus nettes que partout ailleurs. Chez nous, ces réminiscences sont plus vagues, plus voilées. Le merveilleux de nos provinces centrales a plus d'analogie avec celui de la Normandie, dont une femme érudite, patiente et consciencieusement, a tracé un tableau complet. Cependant, l'esprit gaulois a légué à toute notre tradition rustique de grands traits et une couleur qui se rencontre dans toute la France, un mélange de terreur et d'ironie, une bizarrerie d'invention extraordinaire, jointe à un symbolisme naïf qui atteste le besoin du vrai moral au sein de la fantaisie délirante. Le Berry, couvert d'antiques débris des âges mystérieux, de tombelles, de dolmens, de menhirs et de bardels, semble avoir conservé dans ses légendes des souvenirs antérieurs au culte des druides, peut-être celui des dieux kabyles, que nos antiquaires placent avant l'apparition des Kimris sur notre sol. Les sacrifices de victimes humaines semblent planer comme une trouble réminiscence dans certaines visions. Les cadavres ambulants, les fantômes mutilés, les hommes sans tête, les bras ou les jambes sans corps, peuplent nos landes et nos vieux chemins abandonnés. Puis viennent les superstitions plus arrangées du Moyen-Âge, encore hideuses mais tournant volontiers au burlesque. Les animaux impossibles dont les grimaces sans figure se tordent dans la sculpture romane ou gothique des églises ont continué d'errer, vivantes et hurlantes, autour des cimetières ou le long des ruines. Les âmes des morts frappent à la porte des maisons. Le sabbat des vices personnifiés, des diablotins étranges, passent en sifflant dans la nuée d'orage. Tout ce passé se ranime, tous les êtres que la mort a dissous, les animaux mêmes retrouvent la voix, le mouvement et l'apparence. Les meubles façonnés par l'homme et détruits violemment se redressent et grincent sur leurs pieds vermoulus. Les pierres mêmes se lèvent et parlent aux passants effrayés. Les oiseaux de nuit qui chantent une voix affreuse l'heure de la mort, qui toujours fauche et toujours passe, mais qui ne semble jamais définitive sur la face de la terre, grâce à cette croyance en vertu de laquelle tout être et toute chose protestent contre le néant et, réfugiés dans la région du merveilleux, illuminent la nuit de sinistre clarté où peuple la solitude de figures flottantes et de paroles mystérieuses. George Sand.